Vivre FM podcast.
De 10h à 11h, la santé mentale en question, Anne Voileau.
C'est toujours avec un très grand plaisir que je reçois Fred Pierre, notre chef d'antenne, aujourd'hui dans son rôle de formateur de notre centre de formation au métier de la communication pour une remobilisation professionnelle destinée aux personnes relevant de la santé mentale. Il est accompagné de Pauline, notre psychologue clinicienne, et de tous les stagiaires de cette session de 2 mois. Ils vont vous faire des portraits les uns des autres et ils nous ont concocté des chroniques qui sont de vrais cadeaux. Ils ont si bien travaillé que nous allons passer tout le week-end avec eux. Aujourd'hui, nous écouterons Maman, Charlotte, Luc, Mohamed et Lorraine. Alors surtout, restez avec nous, vous ne le regretterez pas. C'est toujours avec plaisir et tous les 2 mois que je reçois Fred et toute l'équipe.
Bonjour,
du centre de formation. Alors Fred, il est perdu au milieu de feuilles, je ne sais pas s'il va s'y retrouver.
Je suis totalement avec les bonnes feuilles.
Ah bon, alors c'est très bien.
Tout va bien.
Très bien. Alors, vous allez nous parler un peu de ce centre de formation, puis du groupe. Les groupes sont toujours différents. Alors, vous avez toujours des adjectifs, quasiment toujours sympathiques, mais plus ou moins sympathiques quand même. Pour
alors,
les différents
ce ne sera pas
groupes.
Un adjectif, ce sera un nom.
Ah, alors
un
voilà.
Un mot, chocolat. Voilà, parce que c'est ce qui marque la fin de ce stage. C'est que tout le groupe m'a offert une boîte de chocolat. On a eu quelques jours pleins de remplis d'émotions dans tous les de tout genre.
Puis alors le chocolat c'est gourmand,
puis,
c'est bon,
puis, voilà,
ça donne de l'énergie.
Forcément. Et
alors,
puis un gourmand comme moi forcément, ça
oui,
ça touche.
J'avais pas remarqué que vous étiez gourmand Fred.
Ah non, mais je sais, cette allure svelte vous sciez à chaque fois, mais
ouais, puis les boîtes de chocolat qui disparaissent à toute vitesse aussi. Alors le centre de formation, bon, pour les auditeurs qui sont pas au courant, c'est un, alors vous êtes notre chef d'antenne et en même temps le formateur à Sinnaux, parce que c'est rue Sinnaux del Duca, faut
voilà,
savoir que, voilà, c'est le nom de la rue.
Ça. Alors c'est un centre de remobilisation professionnelle destiné aux personnes qui ont un handicap psychique et grâce au métier de la radio, aux différents métiers de médias finalement, parce qu'on fait aussi de la vidéo et du théâtre, les différents participants, les stagiaires retrouvent des habitudes de travail, le fait de au moins de sortir de chez soi, parce que pour certains c'est pas arrivé depuis pas mal de temps, et donc ils reprennent les habitudes de la vie professionnelle et aussi sociale.
Et c'est pas évident d'un seul coup de se retrouver dans un groupe, donc on va interviewer tous les stagiaires qui faisaient partie de ce groupe. Alors vous avez dit c'est bien au début chocolat, c'est le groupe
oui,
chocolat,
ça c'est donne, le groupe chocolat,
ça donne faim, voilà.
Voilà.
Et alors selon la logique de Fred, on va d'abord avoir le portrait fait par une autre personne de chaque participant,
voilà.
Et après on va les interviewer et chacun nous a apporté ce que j'appelle un cadeau, c'est-à-dire une chronique sur les sujets qui les passionnent et voilà.
Voilà. Et on va s'intéresser en premier à Bahman ou voilà. Bahman. Comme ça qu'on dit ?
Ça va.
Alors c'est comment ? Alors c'est comment le mieux ?
Bahman.
Bahman. Alors c'est Charlotte qui fait le portrait de Bahman, si j'ai bien suivi votre logique.
Exact. Voilà,
c'est ça. Alors à vous Charlotte.
Bahman. Alors c'est un peu le papa du groupe, il crée une humeur joyeuse et conviviale. C'est quelqu'un qui donne sans compter, on se sent toujours bien en sa présence, il est drôle, blagueur, attentif aux autres, altruiste, généreux en actes et en paroles. Il a une expérience de vie admirable et touchante. Il sait en faire profiter le groupe avec une bienveillance naturelle. Ce même parcours de vie a fait de lui un homme affirmé, intègre à ses principes, et même quand il est politiquement incorrect, il défend avec vigueur ses idées et ses valeurs. Il sait malgré tout écouter les autres avec curiosité. Bahman est quelqu'un d'aussi très énergique, volontaire, il est toujours jovial et amusant, il sait nous mettre à l'aise. Bahman inspire le respect et l'affection, il porte cette sagesse d'homme mûr avec une légèreté d'adolescent, c'est un électron libre et une personnalité hors du commun. Peut-être tient-il cela de son parcours très...
Atypique.
Atypique, oui. Donc, il est toujours dans le mouvement, l'enthousiasme, en respectant les différences des autres. Il voit le monde avec une intelligence et un esprit critique. Et il brille par toutes ses qualités, voilà. C'est aussi un excellent voleur.
Voleur. Ah bon, j'étais pas au courant, ça.
Un voleur.
Alors, ça veut dire quoi, ça, Bahman?
Ça veut dire que je mets les choses dans mon sac, et je ferme, et je sors. Sans payer. Ça vaut l'or.
C'est une technique.
Ne faites pas chez vous.
Mais alors, j'ajouterais aussi que je l'ai vérifié, vous êtes un excellent cuisinier. Ils ont tous pris 2 kilos, là. Ils ont tous pris 2 kilos. Mais c'est un beau portrait.
Merci, mais peut-être un peu trop exagéré. Merci d'abord à Charlotte et toute l'équipe.
Qui vous a conseillé de venir comme ça faire un stage radio?
Moi, j'ai fait, avant le stage radio, j'ai fait le stage chez le magazine Revue Être. Oui. Donc, c'est là-bas que j'étais informé qu'il y a un autre stage à la radio. Si vous voulez la vérité, au début, je suis venu simplement parce que j'avais un trouble de respecter les rythmes. Question de confiance hein, et le problème à côté, j'en ai pas. Confiance, j'en ai même trop en soi. Mais c'est un problème de rythme que j'étais très bien dans le stage précédent et je savais que si je perds le rythme, ça va être très difficile. Ce qui était arrivé, heureusement qu'il y a eu une place et quasiment, même pas un mois d'après, j'ai commencé ici et j'ai appris beaucoup avec l'ensemble de l'équipe. Ça, c'est la première chose que je peux dire.
Et donc, vous regrettez pas vous avez pas acquis juste un rythme, en fait. Vous avez pas juste gardé un rythme, vous avez appris autre chose.
Au bout de troisième jour, quand j'ai fait une interview de vidéo, j'ai dit, j'en suis sûr qu'il y a nettement plus que j'imaginais ici. C'est pas question de rythme.
C'est les bonnes
et
surprises.
Et ça, à la fin de stage, c'est prouvé.
Ah, c'est une bonne surprise. Alors, on est très heureux, hein, Fred. Il y a même des gens qui nous ont dit, je suis venu pour dire que je venais pas et qui sont restés deux mois.
C'est vrai que c'est arrivé, ça.
Alors, maman, vous avez amené un petit cadeau, c'est une chronique. Sur quel sujet?
Sur ma maladie. Ma maladie que je souffre depuis presque 40 ans. J'ai 56 ans et c'est une maladie qui me dérange et encore aujourd'hui, depuis quasiment 40 ans.
T'as que 56 ans?
Oui, non, moi je trouve qu'il ne fait pas 56 ans.
Ah, hein. Enfin,
les auditeurs ne voient pas, oui, mais c'est votre bon caractère.
C'est ça.
On vous écoute.
Oui, j'ai eu une enfance très très difficile. Adolescence, je me sens pas bien dans ma peau. Prisonnier d'une envie sexuelle atroce, plus la pression de mon père pour être toujours première à l'école, dans une ambiance terrible à la maison. Donc, un paradoxe écrasant d'avoir honte de soi et de montrer une personne exemplaire. Ma solution, c'était d'aller vers le Dieu. Je deviens un vrai pratiquant, le seul à la maison, mais malheureusement sans aucun résultat. À l'âge adulte, je fuis vers des activités très dangereuses pour détourner l'attention d'envie sexuelle et ne pas céder à ses exigences. Par exemple, je deviens militant politique en Iran qui est très dangereux, qui met la vie en danger. À l'exil, la maladie prend de plus en plus l'ampleur. La solitude est horrible. 10 premières années de soins, je ne crois pas à la maladie. Je mets tout sur le compte de « je suis pas dans un bon environnement ». Enfin, quand j'accepte la maladie, il y a un changement significatif. Je collabore 2 fois mieux avec mon médecin. Je ne rate pas la prise de mes médicaments, contraire aux 10 premières années que c'était tout à fait aléatoire. Et encore plus important, je souligne ça, que je sais que je ne suis ni responsable de ma maladie, ni responsable de ses conséquences. Donc, il n'y a plus de honte, mais la paix avec moi. Depuis que j'ai accepté la maladie, et j'ai compris cette phrase que je viens de citer, que je suis ni responsable de ma maladie, ni de ses conséquences. Donc, même dans les moments de crise, que je tombe encore, je me répète, repose-toi. Tout le mérite. Cela va passer comme des centaines de fois précédent.
C'est un très beau témoignage, merci beaucoup, parce que ça parle à tout le monde, c'est-à-dire que quand on reconnaît pas le problème qu'on a, on n'arrive pas à le résoudre en fait. Et vous, ça commence à se résoudre au moment où vous avez reconnu qu'il y avait quelque chose
à résoudre.
Exactement. Merci beaucoup, on vous recevra pas un autre jour plus longuement.
Merci.
Alors, merci pour ce témoignage. Alors là maintenant, si je suis bien Fred, c'est... alors qui fait le portrait de Charlotte? C'est Luc?
Oui, c'est moi, Luc. Oui, tout à fait.
Voilà. Alors voilà, alors Luc fait le portrait de Charlotte et après on interviewera Charlotte.
Absolument.
Oh là là, j'ai tout compris.
Bravo,
je suis très fier.
Bravo, magnifique.
Eh ben c'est parti alors. Alors ce qui se dégage en premier de chez Charlotte, c'est ce côté solaire qui fait partie intégrante de sa personnalité. En effet, elle apparaît toujours sous son meilleur jour, de par son côté entier, charmant, énergique et enthousiaste, quelle que soit la situation. On peut ajouter à cela que c'est une personne des plus investies, de plus en plus en confiance et qui prend un réel plaisir à venir au stage, quel que soit son état de santé, ce qui prouve une réelle intégration au groupe. De plus, il est nécessaire d'avouer que c'est une très jolie fille, qui de plus est une bonne copine, et qui développe des sentiments dénués de toute hypocrisie, le tout avec une pointe d'humour et de mystère qui fait que vous êtes en possession de la recette de la femme parfaite. Elle développe aussi un côté rebelle et contestataire, mais après tout, elle est ce qu'elle est, et c'est une personne qui aime défendre ses valeurs avec conviction et engagement, ce qui ne fait renforcer son côté bonne patte. Cette cool et punk attitude, elle aime la développer dans ses compositions chant-guitare des plus talentueuses, qui ne cessent de prendre de l'ampleur grâce au stage, notamment, et car parfaitement ouverte aux critiques en vue d'atteindre son but. En résumé, c'est une authentique artiste. Enfin, ce qui ressort énormément de chez Charlotte, c'est son intégrité et son profond respect pour ce qu'elle est et des gens, ce qui feront que si vous croisez son chemin un jour, vous ne pourrez pas dire que vous avez été frappé par un rayon de soleil.
C'est beau, hein, Charlotte, ça fait rougir quand même, hein, un beau portrait rouge comme ça. Mais je pense qu'il est assez, il est réaliste, hein. Luc,
oui.
je suis d'accord. On a entendu chanter Charlotte et d'ailleurs on pourra la voir sur le site dans la vidéo qu'ils ont fait et on
Absolument.
Entendra Charlotte, sa chanson écrite et chantée par Charlotte.
Et on également dans sa déménage.
Et dans, également dans sa ménage. On fait une pause musicale et on pourra écouter Charlotte plus longuement juste après.
La santé mentale en question, Anne Voileau.
Nous avons écouté le portrait de Charlotte. Donc, qui vous a conseillé de venir
Alors moi, c'est deux amis, Manon et Jean-Christophe, qui m'ont conseillé
ce
stage. En disant, ah, ça va te plaire, ça va te plaire. Je me suis dit, bon, ok, alors.
Et alors
vais. Et alors puis, bah oui, ça m'a plu. Même plus que ça.
Et
super.
Tout, qu'est-ce que vous avez préféré? Alors, c'est difficile. Bon, il y a évidemment Monsieur Radio qui est là, Fred. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, du théâtre?
La vidéo, c'était très intéressant parce qu'on a travaillé une chanson à moi, donc forcément, ça fait
oui,
plaisir.
Oui, forcément, ouais.
C'était en plus tourné dans la, vraiment dans la bonne humeur, vraiment tout le monde était très enthousiaste, etc. Pareil pour le théâtre, tout le monde très enthousiaste. Et la radio, j'ai adoré passer au micro, vraiment, vraiment.
Ah ben voilà, une adepte du micro, mais c'est mieux quand on est chanteur.
Oui, quand même.
Ouais, ça aide quand même, absolument.
D'ailleurs, tu nous as pas dit lors de la dernière émission qu'on a enregistrée que ça allait te manquer ce micro?
Ça va manquer, ouais, ça va manquer. Ouais.
Oui, bah, oui. Faut pas s'arrêter alors.
Bah oui.
Bah j'aimerais bien continuer. Oui, je vais tout faire pour.
Eh ben, on va en reparler.
Des promesses, des promesses.
On peut le rappeler.
Oui, voilà.
On a la possibilité pour une petite partie, parce qu'on a beaucoup moins de place ici au siège de Vivre FM. Pour certains de pouvoir continuer un peu l'aventure comme on dit
et carrément le stage hein,
voilà,
ça, c'est une
d'intégrer,
perfection ouais.
D'intégrer la rédaction pour deux mois supplémentaires et donc d'essayer de rester dans cette dynamique et découvrir encore d'autres aspects de la radio
ouais.
Et là c'est plus particulièrement le journalisme.
Alors en sachant c'est vrai qu'on aimerait bien reprendre tout le monde et que
oui.
C'est pas la valeur qu'on choisit, c'est simplement parce qu'on a peu de place et c'est vrai que ça c'est un peu un déchirement à chaque fois. Moi j'aimerais bien que tout le monde continue mais après dans l'émission je reçois chacun et j'aime beaucoup ce moment où on peut discuter plus longtemps que là c'est un peu bref. Alors vous nous avez effectivement Charlotte apporté aussi une chronique
pas un sujet très joyeux, c'est je parle de mon hospitalisation à Sainte-Anne parce que ça m'a beaucoup marqué.
Ben c'est important d'en parler, je pense, oui. C'est des témoignages qui sont importants parce que je pense qu'il y a peut-être des choses qui peuvent changer, non?
Oui, et j'espère
voilà.
Que ça changera.
Il voilà. Faut appuyer là-dessus. Je suis d'accord.
Alors avant tout, je voulais souligner la méconnaissance de la maladie psychique et de sa diabolisation. En vrai, la maladie psychique, c'est une défaillance du cerveau. Moi, quand j'ai été hospitalisée, j'étais au centre médico-psychologique avec mes parents. Quand j'ai compris qu'ils allaient m'enfermer, j'ai instinctivement tenté de m'échapper. Un infirmier m'a fait une clé de bras, m'a mise à terre tout en me traînant vers une salle de soins. Là, on m'a baissé mon pantalon et injecté un produit sédatif. J'implorais ma mère qui assistait à ce triste spectacle. Quand on fait une crise psychotique, on ne s'en rend pas compte. Alors j'ai pensé à une erreur médicale et je me suis tenue tranquille jusqu'à mon arrivée à Sainte-Anne. Là-bas, on m'a ordonné de porter un pyjama bleu. Ça m'a tout de suite fait penser aux tenues orange des prisonniers américains. La suite, je n'en ai que de brefs souvenirs, j'étais complètement sédatée par les médicaments. Les effets secondaires du traitement me faisaient des tremblements, des mouvements involontaires, l'impossibilité de manger. J'étais comme une vieille femme qui n'a plus le contrôle ni de son corps ni de ses pensées. Un jour, ma tête s'est penchée lentement en arrière, je sentais la pression appuyer sur mes vertèbres. Je suis restée un bout de temps dans cette position, avec la peur de me faire moi-même le coup du lapin. Je n'avais aucune idée de la longueur de mon séjour là-bas, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. J'ai dû ravaler ma folie par peur de paraître étrange et d'être enfermée dans ma chambre comme on le faisait avec les patients difficiles. Excusez-moi, je suis émue.
Non, mais je comprends.
Un jour, un camarade s'est échappé de l'hôpital et pour le punir, il l'avait attaché à son lit jour et nuit. On entendait crier dans tout le service. Moi, j'étais comme une épave. Je craignais de me révolter. À l'hôpital, j'ai même développé des idées suicidaires. Après 6 années écoulées, je fais encore des cauchemars où l'on m'enferme arbitrairement. Là-bas, j'ai perdu une partie de moi-même, mais je voudrais vous rassurer, je vais beaucoup mieux maintenant. Voilà.
Oui, mais c'est très important de témoigner parce que, enfin, je sais pas, moi, je suis pas infirmière ni médecin, mais à mon avis, on peut agir autrement. Même avec quelqu'un qui est en crise. Parce ouais. que ça nous est arrivé ici d'avoir des gens en crise. On n'a pas été obligé de les plaquer par terre, de leur faire une clé au bras et de bon.
J'ai gardé un bleu ouais, pendant un mois.
C'est pas une obligation. On peut agir autrement et je pense que c'est vraiment important de témoigner là-dessus parce que la violence appelle la violence. Et à partir du moment où on agit avec violence, non, mais
les. C'est-à-dire qu'après on
est
obligé de
traiter comme ça. Oui, mais après, ça, vous voyez, vous dites, vous en rêvez encore.
Ah oui, j'en fais des cauchemars,
ça,
oui.
Ça réveille quelque chose qui est pas bon, en fait. C'est pas, donc je pense que ces témoignages, c'est important, mais vous reviendrez, puis on en parlera plus longuement. D'accord. Parce que je suis sûre, et je l'ai vécu, on peut agir autrement. Et on doit, c'est pas seulement on peut, on doit agir autrement.
Une question
autrement.
De respect et de dignité, quoi.
Absolument. Et puis, ça fait aussi, c'est important dans le métier, c'est aussi, on apprend beaucoup plus dans ce métier en trouvant les arguments et les paroles et les gestes qu'il faut faire, hein, pour calmer, pour faire comprendre. Une personne, même quand elle est en crise, il y a toujours une petite lumière auquel on peut faire appel. Et ça, c'est important, mais on en reparlera. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce témoignage. Je pense que c'est un témoignage qu'il faudra redonner et il faut vraiment en parler souvent.
Oui.
Donc là maintenant, si je suis toujours la logique de Fred, là je vais avoir du mal parce que je suis émue par votre témoignage. C'est quelqu'un qui fait le portrait de Luc.
Voilà. Silverman.
Et ben voilà, ça y est, je me suis mis sur trouvée.
Bon,
c'est vrai, après le témoignage de Charlotte, c'est pas facile à parler parce que je suis très très émue par tout ce que je viens d'entendre. Mais malgré ça, je fais tous mes efforts pour pouvoir faire le portrait de Luc tel que je souhaite. Ce mec, je l'adore.
Ah bah alors ça commence bien. Alors ça...
Luc, avant tout, c'est un vrai ami sur lequel on peut compter. Il est très humain et trop sensible et un peu pudique.
C'est plutôt
bien. Il est tellement serviable qu'il ne sait pas dire non. Courageux et facile d'accès. À fond dans ce qui le passionne, surtout la musique. Ce bon vivant adore la guitare, la moto, les grosses voitures polluantes et évidemment les femmes. Quand il blague ou rit, ce qui arrive souvent, il est tellement joyeux qu'il n'est plus sur la terre, mais dans les bras d'une femme. Mais dans sa solitude, il n'est pas gai ou joyeux, tel qu'il m'a confié. Ça lui arrive de se mettre en colère, très fort. Mais il se calme très rapidement, sans garder la rancune, quand il est en face d'une personne sincère. Dans un mot, il est adorable.
Oh, c'est beau, Luc, hein, franchement.
Ah oui, là, c'est. Bah, hein? Merci beaucoup.
Bah, de toute façon, on ne peut rien dire de plus. Hein. Oui. Simplement, bah, vous nous dites, vous, qui vous a conseillé de venir au centre?
Bah, je dois avouer qu'au départ, moi, j'ai été là totalement par hasard, en fait.
Ah bah, le hasard fait bien les choses,
oui. Oui, tout à fait, oui, c'est le moins que l'on puisse dire.
Ouais. Comment vous avez vu de la lumière? Vous êtes entré?
Bah, C'est un peu résumer la situation de façon archaïque, si je puis dire, mais c'est un peu ça, oui, finalement, oui, parce que c'est en fait via une autre association qui m'a conseillé de venir à ce stage. Je dois vous avouer que quand au départ j'y suis allé, je me suis dit, oui, je vais pas vous mentir, j'étais en ce moment de toute façon j'ai rien à faire, donc ça peut que occuper mon temps.
Mais c'est mieux que je viens pour dire que je m'en vais. Vous au moins vous avez essayé.
Oui, tout à fait. Ouais, mais au départ, je persiste sur le fait que j'étais pas venu avec l'intention d'être, si je puis dire, un membre actif du groupe, quoi. En fait, même plutôt passif en l'occurrence. Donc,
Et vous êtes pris au jeu.
Oui, voilà, exactement. Ouais.
Et vous avez un portrait comme vous aurez. Franchement, si vous n'étiez pas là, vous l'aviez jamais eu, ça.
Ah oui, oui, là, c'est évident.
C'est même vraiment beaucoup pris au jeu, puisque c'est quand même une des personnes qui a beaucoup contribué à l'ambiance, comme l'a dit Baman, avec sa bonne humeur, avec ses vannes, avec.
Vu au cours de théâtre, parce qu'il faut dire que tout à la fin du stage, il y a une petite fête où j'ai pas manqué une jusqu'à présent, et c'est vrai que c'est très passionnant. Chacun chante, c'est vrai qu'ils avaient organisé beaucoup de choses qui étaient vraiment très très bien, et lui qui était pas en reste, hein, je dois dire.
Métalleux.
Ouais. Alors vous nous avez apporté aussi pareil, alors une chronique, c'était sur quel sujet?
Ben justement, comme l'a dit Barman, moi ce que je préfère par-dessus tout, c'est les voitures, les motos.
Ah oui, il a dit les femmes quand même, les voitures.
Les femmes, oui, oui, bon ça, à vrai dire, c'est le mot que l'on puisse dire. Voilà. Voilà.
Alors là, c'est sur les voitures ou sur les femmes là?
Ben justement, c'est sur mon autre sujet de passion, c'est sur la guitare. Une guitare plus précisément que l'on appelle la Stratocaster. Alors cette guitare, elle parlera aux initiés de la guitare électrique. Cette guitare là, c'est pourquoi j'ai choisi spécialement cette guitare là, parce qu'en fait c'est une guitare qui est emblématique, tout simplement. Voilà. Donc comme je l'ai dit, la Stratocaster, c'est une guitare électrique, le plus souvent à 6 cordes, munie de 3 micros, d'un chevalet de type trémolo et d'un manche vissé à un corps plein, d'où le nom de Stratocaster. Stratocaster pour stratifier. Cette guitare est apparue au catalogue de la marque Fender en 1954 et y figure toujours aujourd'hui. Et l'on peut dire que c'est elle qui a fait naître le rock dans sa conception simple, abordable et polyvalente. À cette époque, le marché de la guitare était inondé par des guitares à corps creux, peu accessibles et pas assez polyvalentes, et donc la Stratocaster fut un véritable carton d'entrée. En cette année 1954, un jeune bluesman du nom de Buddy Holly, avec son album Peggy Sue, créa un tel engouement pour la Stratocaster que les magasins de musique de l'époque tombent rapidement en rupture de stock. Dans les années 50 et 60, la progression de la Strat, pour les intimes, sera présente entre les mains de ses experts du King de Nashville, notamment B.B. King, ou encore d'un certain Jimi Hendrix avec son titre Hey Joe. Dans les années 70, l'apparition d'amplificateurs à haute saturation, je pense notamment aux amplis de la marque Marshall, une marque britannique, fait définitivement asseoir la réputation de la Strat comme la guitare de rock par excellence, et les ventes de Fender explosent à cette époque. Ensuite, dans les années 80, c'est l'explosion du hard et du glam rock, avec notamment Van Halen et son titre interplanétaire Jump. Et c'est à cette époque que l'on observe l'apparition des Stratoïdes, qui sont des copies de la marque Fender. Donc un réel engouement. Dans les années 90, la Strat n'est pas en reste et continue son évolution et prouve qu'elle est peut-être utilisée dans des styles modernes tels que le metal ou le néoclassique, notamment comme le prouve le génie suédois Yngwie Malmsteen. De nos jours, et malgré l'électronisation de la musique, la Strat est toujours présente grâce à la mode du vintage, et l'on retrouve notamment des Strats qui sont utilisés abondamment dans l'album Random Access Memories sorti en 2003, l'album des Daft Punk donc, où Nile Rodgers, le guitariste de Chic, y figure.
2013, ouais. Pas 2003.
2013. Oui, 2013, oui, tout à fait, oui.
Je dis 2003. Je suppose que vous en avez une.
Trois en l'occurrence.
Ça me rassure. Voilà. En parlant de guitare, on va faire une pause musicale. On se retrouve tout de suite après.
Vous écoutez La Santé Mentale en Question avec Anne Voileau.
Fred, c'est déjà la dernière partie. On ne se lasse pas. Mais je pense qu'on va être obligé de faire deux jours parce que là, il y a quand même tout le monde n'est pas passé. Et puis, comme ça me passionne, ça vous passionne aussi. Ça nous passionne tous. Donc, on se retrouvera demain. Voilà. Alors là, j'ai Lorraine qui va faire le portrait de Mohamed. D'accord. Lorraine, à vous.
Alors Mohamed, après une enfance plutôt difficile, sait se battre et renvoie une image joyeuse. Avec un caractère tenace, Mohamed est très ouvert au débat et va au bout de ses convictions. Cela fait de lui une personne qui ose dire ce qu'elle pense sans état d'âme. Mohamed est effectivement assez cash et n'aime pas l'hypocrisie. Derrière ce fort caractère se cache un esprit taquin, faussement aguicheur, restant délicat et sachant quand même se trouver ses limites politiquement correctes, ce qui fait de lui une personne rigolote et délicate. Sa joie entraîne les autres à rire avec lui, et au-delà de toutes ses folies, il reste un homme très humble. Passionné par des choses exceptionnelles et peu communes, Mohamed partage avec les autres ses connaissances pouvant passer pour incongrues, telles que les sagesses anciennes ou le langage des oiseaux, ou ce qui rend les autres très curieux et très intéressés.
Très bien, c'est bien Mohamed, hein, ce portrait. Il est très, c'est bien parce que c'est subtil, il y a plein de choses. Il y a en même temps quelqu'un qui s'affirme, hein.
Ah oui, ça,
fois,
c'est,
ouais,
oui, il s'affirme.
Un peu assez fidèle,
un
je
peu
reconnais.
Cash, et puis, et oui, puis oui. En même temps, a de la douceur quand même. Hein,
ah oui, sauf, très voilà. Doux, très cash, mais très voilà. Doux.
C'est beau, t'es arrivé à faire ça en même temps, Mohamed. Ouais, alors, qu'est-ce qui vous a conseillé de venir au centre?
Ben, personne ne m'a conseillé, c'est moi qui ai vu la brochure dans l'USAVS, et comme je suis quelqu'un curieux, j'ai regardé la brochure, et j'ai vu qu'elle marquait revalorisation, remobilisation, et tout, je me dis, tiens, ça pourrait m'intéresser, ça pourrait que me faire du bien. Et puis après j'ai pris contact avec c'est ma référente qui a pris contact avec la psychologue et
notre charmante Pauline qui dira quelques mots demain.
Voilà.
Et alors là vous avez été séduit évidemment, c'est pour ça qu'on présente toujours Pauline et pas forcément Fred hein, au départ. Et alors qu'est-ce que vous en avez pensé alors de votre séjour parmi nous?
Ah ben ce séjour est quand même assez quand même il m'a pas mal éprouvé quoi, parce que c'était parce que moi je reviens, enfin j'ai pas fait d'activité pendant 3 ans.
Ah oui, dis donc.
Et ouais,
oui.
Pendant 3 ans.
Ouais.
Et là reprendre un rythme régulier et tout, ça m'a bien mis dans un certain rythme, dans
mais
un.
Mais c'est pas facile au départ.
C'est pas facile. J'étais super angoissé. J'avais peur d'arriver en retard, mais heureusement ça va. J'ai pas eu beaucoup de retard.
Ouais, le tout, c'est d'être là quand même. Hein.
Ouais, c'est d'être là.
On accepte bien que 3 ans sans inactivité, sans activité, c'est pas facile de reprendre.
Non, mais pas de retard.
Ouais. Oui, c'est pour ça que je vous dis, heureusement que vous avez vu Pauline en premier.
Ouais. Et peut-être que je me redis, mais je dis souvent, ce stage pour moi, c'est un peu un parcours initiatique. Voilà. C'est parce qu'il faut affronter ses peurs. Il faut aller jusqu'au bout. Après, il faut savoir écouter les autres. Ce qui est pas facile. Moi, j'arrive pas vraiment à écouter les autres, je m'écoute plus, mais j'ai appris à écouter les autres et les autres dans leur diversité et ce qu'ils peuvent apporter.
Bon, en fait, c'était quand même dans votre caractère parce que vous l'avez bien fait. Hein.
Ouais.
Oui.
Et c'est aussi cesser de se voir dans l'autre et apprendre à voir l'autre comme il est. Voilà, parce qu'au début, j'avais un peu de problèmes avec certaines personnes du stage et tout. Enfin bon, mais après les rapports se sont apaisés. Comme dit Fred. Il faut crever l'abcès. J'ai suivi ses recommandations. Et puis,
oui, il faut dire
ça permet de détendre les relations et que ça soit beaucoup plus souple, quoi. Que ça coule mieux après.
Oui, parce que quelquefois, quand on est resté assez longtemps, replié sur soi-même, on en rajoute beaucoup. En fait, la moindre chose prend des proportions des fois un peu trop importantes.
Ouais. Bon,
ça fait un peu ça.
Non, mais même entre nous, il a fallu à un moment donné, il y a peu de temps, vers la fin du stage, il a fallu crever l'abcès, comme j'utilise souvent cette expression, mais c'était nécessaire pour qu'on puisse terminer le stage dans de bonnes conditions, parce qu'il y a parfois des incompréhensions, il y a parfois aussi.
Oui, puis des choses qu'on prend mal, et alors
oui,
que
voilà.
c'est pas dit dans un mauvais sens.
Non, puis c'est parfois pas dit. Aussi.
Ou pas dit du tout. Alors
donc,
c'est encore pire. Oui, c'est plus difficile.
Voilà.
Oui, c'est plus difficile.
Mais quand je repense, quand je dis que j'ai rien fait pendant 3 ans, non, c'est faux. C'est quand même, j'ai bataillé pour retrouver ma mère biologique. Et je l'ai retrouvée cet été. C'était un long parcours, mais je suis allé jusqu'au bout. Elle est vivante et je l'ai retrouvée. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassée. Ça m'a fait plaisir de la voir. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté. Parce que j'ai toujours un problème avec les racines. J'ai toujours un. L'idée de pas savoir d'où je venais m'obsédait et par moments j'oubliais, par moments ça revenait sous forme de rêve. Je rêvais de mère, je rêvais de père
Et ça m'a obsédé. Je me dis, tiens, cet été, l'été dernier, l'été 2014, je vais descendre en Tunisie. Je vais aller la retrouver. Revu. Quoi qu'il arrive. Ouais, je l'ai revue.
Et pas déçue, c'était.
Non.
Voilà.
Pas déçue. Elle était très contente. Elle m'a raconté.
Oui, pourquoi.
Elle m'a raconté pourquoi. Et
le pourquoi, le comment, oui. C'est très important. Alors, vous nous avez apporté aussi une chronique, un cadeau, j'appelle, parce que je pense que c'est un cadeau. Sur quel sujet?
Sur la langue des oiseaux.
Ah, j'adore les oiseaux. Allez-y, je vous écoute.
Mais c'est pas ce que vous pensez.
Ah bon? C'est autre chose.
C'est autre chose. Depuis la nuit des temps, il existe une langue secrète, connue des seuls initiés au grand art, l'art Magnus, qui est l'alchimie. Ils se réunissaient entre eux pour se transmettre des secrets de fabrication. Cette langue secrète fut même reprise par Rabelais dans son très célèbre Gargantua. C'est la langue des oiseaux, qui consiste à décomposer un mot pour ensuite le réassembler et lui donner un sens nouveau. Cette langue est dite verte, car c'est sans doute la vérité et la vertu qui guident les pas de l'apprentissage dans sa quête de lumière. Exemple, prenons un mot simple, le mot lunette. Si on le décompose, on entend lunette, donc lu d'une manière nette. Cela indique bien à quoi ça sert. Prenons également le mot fainéant. On entend fainéant, donc qui ne fout rien. Il n'a pas non plus à aller chercher les anges à l'extérieur de nous, car comme leur nom l'indique, ils sont en jeu, donc à l'intérieur de soi. La mort, c'est aussi l'âme hors du corps, et la magie, l'âme qui agit. Je trouve cette manière de jouer sur le mot très amusante, et il m'arrive même d'en trouver certains mots du quotidien. J'en ai quelques exemples bien sympas, comme les infos, c'est info, sauf sur Vivre FM bien entendu. Ou encore le bonheur, c'est à la bonne heure, donc au moment présent. Sinon on est dans le malheur qui nous conduit à l'horreur. On pourrait croire que cela marche uniquement en français, mais c'est aussi valable en anglais. Lorsque jadis on disait au chevalier en quête du Graal « wake up », on entend « wake up », le chemin de la coupe, surtout si la veille on lui a dit « good night », c'est-à-dire « sois un bon chevalier ».
Bah, c'est très intéressant, on a envie d'en entendre plus. On va s'initier, hein, Fred, à cette langue des oiseaux.
Je viens de donner un cours.
Absolument. Alors là, maintenant, c'est Mohamed qui fait un portrait
de Lorraine.
De Lorraine, ah bah voilà.
Ce que j'apprécie chez Lorraine, c'est sa compagnie, parce qu'elle est agréable. C'est une fille charmante et raffinée. Lorsque je la regarde, elle me fait penser à ces femmes des années folles, aussi élégantes que sexy. Tout en étant coquette, car elle aime prendre soin d'elle, elle sait aussi rester simple et fidèle à elle-même. C'est une fille bien dans sa peau, ne cherchant pas à plaire. Elle me semble également courageuse, elle garde toujours le sourire malgré les aléas de la vie. Je sens en elle une grande force de vie. C'est une fille toujours pleine d'enthousiasme. Lors de nos discussions durant le stage, j'ai remarqué que Lorraine était une fille ouverte et curieuse des autres, ce qui la rend encore plus attachante. Elle a certainement un vrai talent d'actrice, car pendant le groupe théâtre, elle fait preuve de beaucoup de maîtrise de ses émotions. Lorraine, c'est un peu ma Bonnie Parker.
Oh, c'est beau, Lorraine, mais c'est pas faux. Hein. Je trouve que c'est même très vrai. C'est vrai que...
Merci, merci.
Charmine, Lorraine. Alors, Lorraine, qui vous a conseillé de venir nous voir?
Je faisais un stage dans un stage de remise en forme. En fait, c'était pas vraiment un stage de travail. C'était plusieurs bâtiments, on va dire, pour handicapés, et puis ils essayaient de redonner une forme de vie un peu à tous ces handicapés. Et ils essayaient de nous aider à trouver des stages.
Des orientations, oui.
Voilà, des orientations. Et puis on était soutenus par une tutrice. Et cette tutrice avait déjà envoyé une personne chez Vivre FM. Et connaissant ma passion pour l'audiovisuel,
ah oui, quand même.
Voilà, exactement. Ah. Oui, ça, je suis à fond dedans. Elle m'a dit, j'ai un truc super pour toi. C'est Vivre FM. Donc renseigne-toi un peu. Vas-y, je te conseille vraiment de le faire. Donc je me suis renseignée et je l'ai fait.
Et alors,
je suis super contente de l'avoir fait.
Je vous ai entendu chanter. Vous chantez très bien aussi. Hein. On a deux bonnes chanteuses là.
Ah oui, mais s'il y a des gens qui écoutent, moi je suis prête pour le théâtre, la chanson,
tout.
Voilà, s'il y a besoin d'un casting, je suis là.
Ah bah absolument. Puis après, il y a des castings, faut se présenter.
Ouais, voilà. Mais j'arrive en courant.
Très bien. Eh bah, on suit ça, hein, Fred. Hein.
Absolument.
Il n'y a pas de problème. Il faut. Alors, vous nous avez apporté aussi une chronique.
Oui.
Et sur votre passion, l'audiovisuel.
Justement, voilà. C'est à côté de la vraie vie, on va dire, où on cherche du travail, je fais depuis très longtemps des reportages audiovisuels sur les expressions françaises. Mais c'est des reportages très courts, de 2 minutes en général. Et voilà, sur un grand nombre.
Vous pourriez vous associer avec Mohamed sur les mots, hein.
Exactement, voilà. Justement, ouais, là, j'allais y venir.
Ouais. Avec grand plaisir.
Ouais, et ben voilà, parce que je travaille sur un grand nombre d'expressions françaises qui sont souvent méconnues ou mal interprétées. Du coup, c'est pour ça que jouer sur les mots aussi, c'est pas mal. Et je pense que les reportages audiovisuels de 90 minutes sur divers sujets, qui passent à la télé, requiert une grande disponibilité pendant des horaires prédéfinis et demande une attention soutenue, alors que les reportages courts de quelques minutes, spécialisés dans les expressions françaises par exemple, s'insèrent eux plus facilement entre deux programmes et instruisent rapidement un large public. Et alors après, la réalisation de ces chroniques sur les expressions françaises demande aux intervenants un intérêt profond et passionné pour s'impliquer à fond dans cette aventure. Et chaque expression se doit d'être intéressante et didactique. Alors après, pour fabriquer, on va dire, la compréhension d'une expression, il faut choisir une expression connue, se renseigner avec une grande exactitude sur la définition, sur son origine et sur le sens qu'elle a aujourd'hui. Par exemple, la pendaison de crémaillère. Voilà, j'ai pris ça, c'est très connu, hein, on a tous des pendaisons de crémaillère. Alors ça, en fait, c'est une expression, à la fin de la construction d'une maison, par exemple, il était de coutume d'inviter toutes les personnes qui ont contribué aux travaux de cette maison, et à la fin, tout le monde vient manger, afin de remercier, ils se remercient un peu tous du travail qu'ils ont fait. Et au Moyen-Âge, la cuisson se faisait avec une marmite dans l'âtre de la cheminée, afin de faire cuire plus ou moins fort la nourriture. Et on utilisait une crémaillère qui permet de pendre la marmite plus ou moins haut près du feu pour la faire chauffer, etc., pour les amis. Et la crémaillère était la dernière chose installée dans la maison et elle marquait clairement la fin de l'emménagement et le début du repas de remerciement, de la fête, etc. Alors après, une fois toutes ces informations réunies, on en fait un scénario concis et divertissant que l'on tourne, on monte et on fait les derniers accords jusqu'à ce que la vidéo soit prête à être diffusée, ce qui peut durer jusqu'à quelques jours comme quelques semaines. Mais une fois tout terminé, la vidéo se doit être simple et divertissante, donnant envie aux spectateurs de terminer la visualisation de l'émission portant sur l'explication de cette expression. C'est pour ça qu'un reportage court, on peut tomber dedans. On peut tomber devant vite fait et hop, en 2 secondes, on connaît une petite expression comme ça.
Bah, merci beaucoup. Puis on a hâte de voir ces tournages. Hein, à bientôt. Alors, on va se retrouver demain puisque on a encore des personnes à écouter.
On sera là.
À demain.